Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
À jamais, je voudrais m'oublier, mais jamais.
Tout le monde semble avoir un lien familial avec notre invitée du jour. Elle incarne à la fois pour nous le rôle de la mère, celui de la grande sœur, celui de la cousine qu'on est content de voir arriver d'un party. C'est quelqu'un qui tombe toujours
bien. Parce qu'elle a quelques bons jokes.
Toujours.
Et j'ai toujours quelques bons jokes.
Et vous l'avez reconnu, c'est Ginette Renault. Bonjour, Madame Renault.
Bonjour, vous allez bien?
Ben, c'est à moi de vous poser la question. Moi, ça va bien, mais vous, comment ça va?
Très bien aussi.
Avec un bel album.
Oui.
À jamais.
Oui, je suis un de mes grands crus, là.
Oui, hein.
Bon, je pense que dans une carrière, on a... Peut-être que j'en ai fait une dizaine qui seraient des grands crus.
Oui.
Les autres, c'est pas parce qu'ils sont pas bons. Mais quand je parle de grands crus, c'est comme une bonne année, comme un bon vin.
Oui. Vous le sentez, celui-là, quand,
oui,
quand vous
oui,
le faites.
Oui, oui, non. Puis je l'aime beaucoup, puis je l'écoute énormément. Je me fatigue pas.
Ça
donc,
faisait,
c'est très bon signe.
Ça faisait quand même 7 ans que vous
aviez sorti... 7-8 ans qu'on a sorti la musique en moi,
votre
oui.
album le plus récent.
Après ça, avant ça, c'était Fais-moi la tendresse.
Oui. Pourquoi un délai aussi long? Parce que d'habitude, vous êtes plutôt présente. Il n'y a pas de raison.
Moi, des fois, c'est 2-3 ans plus tard. Ouais. Je sais pas. Disons que... Plus on vieillit, plus tout raccourcit.
Mm-hmm.
Mais tout se, parce que j'ai déjà fait un album en une journée, hein.
Hein?
Comme
en début de carrière?
En une journée. En une journée, j'ai déjà fait un album.
Lequel?
L'album de Noël en 1900, je sais pas quoi.
OK.
60 quelques.
Il fut une époque où on faisait des albums en une journée.
En une journée, oui. On faisait, puis on faisait l'acétate en même temps. Parce qu'on n'avait pas de... On pouvait pas chanter au mot puis à la phrase. Là. C'était la chanson complète. On mixait l'orchestre puis on mixait la chanson.
En beau
la
français,
chanteuse,
c'était...
Après ça, on faisait party. Si quelqu'un se trompait dans l'orchestre ou moi, on recommençait.
J'allais dire, on faisait la take.
C'est ça. Le take.
Sauf qu'en même temps, ça vous obligeait...
Mais
vous...
Ça nous apprend à... À être très, très efficace.
Je comprends.
À travailler. Moi, j'ai travaillé des albums. Il y en a un en particulier. Je chantais tous les jours l'album en Angleterre.
Ouais.
Puis quand je l'ai enregistré, je faisais tous des one take. Parce que j'ai travaillé pendant un mois. Je le faisais 2 fois par jour.
OK.
Je faisais l'album presque 2 fois par jour.
Donc, vous l'aviez dans le sens,
donc,
celle-là.
Quand je suis arrivé avec l'orchestre, j'étais...
Il ne va pas en venir.
Ben, je sais pas, là. Mais c'est des beaux moments. C'est des moments ouais. inoubliables.
L'album, à jamais, vous faites encore preuve d'originalité malgré tout ce temps. Je regardais votre lancement. Vous lancez un album, j'ai jamais vu ça nulle part.
Ben
vous
oui,
invitez un journaliste à la maison ben pour
oui.
déjeuner.
Ben oui.
Puis vous chantez des extraits de l'album.
Ben
au
oui,
coin de la table.
Oui, j'ai trouvé ça très... C'était le fun de faire ça.
Mais il y a juste Ginette Renault qui peut faire ça au Québec.
Je sais pas. Peut-être que d'autres auraient peut-être pu y penser, mais ils étaient pas. Ils étaient peut-être trop gênés ou je sais pas.
Sauf qu'en même temps, vous, quand vous faites ça, il y a le journaliste du Devoir qui est là, t'as le journaliste du Huffington Post.
Non, c'est ça. Il y a
tout le monde vient.
Des gazettes et tout ça, tout cela ensemble, oui.
Tout le monde vient.
Moi, je trouve ça agréable.
Oui.
Parce que c'est bon de qui se rencontre.
Mais en même temps, ça nous donne une idée de la palette.
Aussi.
En fait,
j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça bien.
Chose qui est étonnante avec cet album-là aussi, c'est votre 40e album, si je ne me trompe pas. Dans
ce je ne sais pas.
Dans
ce je pense que c'est le 40e album.
Okay.
Mais il y en a 60. Peut-être.
C'est ça, mais on peut dire que votre carrière a quand même une certaine longévité. Là
si je rentre dans ma 60e année.
Bon,
depuis le 13 septembre 1959, donc depuis le 13 septembre 2018, je rentre dans ma 60e année.
Vous pourriez facilement vous passer de l'exercice de la promotion, ces choses-là.
C'est pas vrai.
Or, je vous ai entendu.
C'est pas vrai, je vous crois pas.
Je vous ai entendu sur toutes les vitrines. Vous avez donné des entrevues à profusion et avec générosité aussi quand vous présentez en entrevue.
Je pense que c'est important. C'est important d'aller porter le message.
Ouais.
En même temps, puis moi, je pense que j'avais vu ça à un moment donné sur un des films que j'ai fait.
Ouais.
Il y avait certains acteurs qui voulaient pas faire de promotion. Puis j'ai regardé, je me rappelle, on était avec Alliance Viva Film, j'ai dit, c'est important quand même d'aller porter le message, d'aller leur dire que c'est un bon film, puis tout ça. Je trouvais ça quand même curieux, que les personnes veulent jouer dans un au cinéma devant l'écran, puis ils sont pas capables d'aller porter le message. J'avais trouvé ça curieux que certains artistes étaient très on souffre à la grandeur de son orgueil. J'y trouvais bien orgueilleux, pas ouais. mal. Ouais.
Mais c'est parce que on peut rencontrer parfois des artistes qui sont rendus à leur premier album et demi, puis qui choisissent de prendre le garde-robe pour aller en retrait. Vous êtes rendu dans votre 60e ouais. année, puis vous
sortez. Non, moi, si on continue, oui. C'est la seule manière, de, puis en plus, de pouvoir rencontrer tout le monde,
ouais.
de qui nous voit à face, puis qu'on leur voit à la face aussi. C'est important de savoir à qui on a affaire, puis...
Ben, votre théorie tient debout parce que vous vendez énormément de disques, considérant le marché, ce qu'il est maintenant.
Je pense qu'en ce moment, on est rendu presque à 60 000.
C'est ça.
Mais j'aimerais ça qu'il soit platine avant Noël.
Mais un album platine en 2018 avec les conditions de diffusion. Mais c'est pas,
rare, mais il est tellement
unique.
Bon. Je vous dis, puis il m'a coûté tellement cher.
Ah oui?
Ouais, puis je veux faire des beaux cadeaux pour Noël. Ah,
mais en même temps, se payer la traite, c'est ça, il y a un prix qui vient avec ça.
Toujours.
Sauf que là, il y a plein de collaborateurs, là.
Oui, il y a beaucoup de monde. Du beau monde avec qui j'ai travaillé. C'est le fun parce que j'ai appris à les connaître.
Oui.
Parce que j'allais chez eux. Il y en a un autre qui, lui, est venu de chez moi.
Okay.
Donc, il y a Rick Allison, qui est l'ex-mari de Lara Fabian, ouais. qui a fait des grands succès pour Lara. Lui, il venait avec je sais pas combien de valises, avec 16 bagages. Ça coûtait cher. Mais le studio était complètement dans ses valises. Donc, il a pris une chambre, il l'a converti en studio.
OK.
Et il a couché sur le balcon. C'était tellement drôle parce que... puis on a eu du plaisir. Mais du plaisir dans la souffrance aussi, parce qu'il y a des chansons qui étaient très difficiles à chanter. Dont la grosse L'arbre de vie, qui était aussi une chanson magnifique. Je l'aime pour deux. Qu'est-ce qu'il m'a écrit à part ça? Je pars.
Ouais.
Je pars, mon cœur n'a plus. Je pensais pas, puis j'en ai essayé 40. J'ai essayé 40 chansons avant. Pendant 2 ans, j'ai essayé une chanson, j'en essayais une autre. Je les écoutais. C'est-tu bon? C'est-tu le fun? C'est-tu vrai? Ça dit-tu quelque chose que j'ai vraiment envie de dire? Puis j'en ai tenu 29.
Les
10 que j'ai enlevés, là, ouais. parce qu'il y en a 10 après que j'ai dit fini, là. Mm-hmm. Orchestre et tout.
J'ai okay. dit, ah oui, tout. Le tout. Travail est fait.
Ah oui, comme s'il y en avait un autre album. Je les ai enlevés. Je les ai pas gardés.
OK, donc.
Ça, je trouvais ça difficile.
Ben, ça
c'est
doit.
Très difficile pour moi de faire. Parce que moi, je veux toujours en faire plus que d'en faire moins. Je trouve que quand on en fait moins, c'est pas le fun. Quand on en fait plus, c'est plus difficile. On pleure, peut-être parce qu'il faut en enlever. Mais il y en avait des bonnes là-dedans.
Est-ce que c'est des chansons qui pourraient éventuellement, des chansons mises de côté, est-ce qu'elles peuvent être mises de côté temporairement, servir peut-être pour un autre album ou pour vous, cet album-là?
Je sais pas, parce que, voyez-vous, dans mes tiroirs, j'en ai peut-être une 60aine que j'ai enregistrées.
Oui.
Qui ne sont jamais sorties.
Ça pourrait faire un beau coffret, à un moment donné, par exemple.
Oui, ça pourrait faire comme... Oui, absolument. Moi, je pense que peut-être que c'est mon héritage à mes enfants.
Mm-hmm.
Si jamais, quand je vais partir, parce que... On ne sait pas, hein. Je pense que ça peut être un beau cadeau pour eux.
Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson vient vous chercher parce qu'on vous en propose? Puis souvent, vous en écrivez vous-même.
Mais
qu'est-ce qui fait que l'affaire arrive?
Il y a l'amalgame de la musique et des paroles.
Oui.
Au départ. S'il y a un beau mariage entre les deux, parce que des fois, il n'y en a pas. Des fois, les paroles disent quelque chose, puis la musique est comme... C'est spécial.
Ces deux courants, là.
Oui. Si l'amalgame des deux est bon, oui, mais ça, je peux pas interpréter une chanson. François Cousineau m'avait dit un jour, Ginette, il faut que tu arrêtes. Une chanson, c'est une chanson. J'ai dit oui, mais j'ai dit, moi, il faut que ce soit vrai. J'ai l'impression de... Je suis une vraie chanteuse, donc comme j'ai le verbe-être, je suis une interprète. Moi, avant tout, les paroles, pour moi, sont plus importantes que la musique. Si on a les deux, c'est tant mieux.
Oui, mais
pour
c'est
moi,
le texte.
Les paroles, là, c'est... Si je dis à mes enfants, mettons, « Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer. » Pour moi, là, c'est... Même il faut que je l'écoute puis je pleure. Je pleure dans le sens, je peux pleurer de joie, là. Comme à jamais, quand j'ai envoyé le texte à Romano. Parce que je fais ça toujours, je nourris mes auteurs. J'écris les textes moi-même, je les envoie. Puis l'auteur écrit un texte.
Il n'y a pas le choix de vous suivre, hein?
J'ai dit à Romano, envoie ça à un de tes auteurs à jamais. Mm-hmm. Trois jours plus tard, il m'envoie la chanson. Il dit, voici notre chanson. Et je commence à écouter ça par... c'est Judith qui faisait les voix pour moi. J'écoute ça, puis je dis, c'est pas vrai. C'est pas ma chanson. Fait que j'étais tellement content que j'ai donné un autre texte tout de suite qui s'appelait La maison est grande.
OK.
Et tout de suite, il a écrit une musique là-dessus, puis il a écrit une musique tellement... qui bouge, tout ça, pour une chanson qui est tellement triste. J'ai dit, waouh, est-ce assez bon de faire une affaire de même?
Parce qu'il arrive...
Romano, quand même...
Ben, clairement, oui. Il arrive quelque chose avec vous, c'est systématique, il y a toujours un moment donné dans une chanson, la note. La note qui vient nous. Qui,
ouais,
vient,
y a une...
qui vient nous chercher.
Je sais pas si
cette note-là, est-ce qu'elle vous étonne, vous aussi?
Moi, j'ai toujours dit, j'aimerais ça mourir en lançant un si bémol. Parce que ma note, moi, c'est si bémol. OK? Mais,
ouais.
Mais un si bémol, là, je fais mon si bémol, puis... puis je tombe. Je pense que ça serait une belle façon de mourir.
Mm-hmm.
Sur scène, en faisant ce que j'aime le plus faire au monde, chanter. Puis mon si bémol, c'est la note.
Oui, mais nous autres, de notre côté, si ça ne vous dérange pas, on va vous demander d'attendre votre si bémol bien longtemps.
D'accord.
J'aimerais ça, écouter une chanson justement de cet album-ci.
Okay,
puis moi, c'est une chanson que j'ai écoutée justement... Je n'ai pas vu passer le temps.
Oh, Romano.
C'est celle-là qu'on va écouter, okay, avec Ginette Renaud.
Tous ces avions qu'on prend comme des taxis de nuit vers d'autres continents, d'autres pays. Ajoutez au compteur les décalages horaires qui vous mettent le cœur à l'envers. Envie parfois de crier aux abois, ramenez-moi chez moi. Je n'ai pas vu passer le temps. Le temps ne nous attend pas. Insolent comme un cerf-volant, il nous glisse entre les doigts. J'ai toujours regardé devant, sans jamais me retourner. J'avais tant d'amour à donner, et le monde était si grand. Ces chambres d'hôtel, tellement partout pareil, je ne sais plus dans quelle ville je m'éveille. Sauf si la tour Eiffel, traversée de soleil, me rappelle qu'aujourd'hui c'est Paris. Excusez-moi, pourrait-on faire ce soir sur une étoile. J'arrive à la fin de ma vie. Comment prendre le tournant quand tous les sommets sont conquis? Que sera l'autre versant? Un jour je m'en... Pour voir filer le temps qui file, tout doux, tout doux, tout doucement. Je ne vois plus la vie comme avant, quand tout semblait si facile. Regardez grandir un enfant, c'est si fort et si fragile. J'ai toujours regardé devant, sans jamais me retourner. J'avais tant d'amour à donner, et le monde était si grand. Tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour dans mon cœur d'enfant.
je n'ai pas vu passer le temps.
Bien sûr que vous l'avez reconnu, c'est Ginette Renaud, je n'ai pas vu passer le temps, tiré de son dernier album À jamais. Est-ce que vous l'avez vu passer le temps ou vous l'avez vraiment pas vu passer?
En toute sincérité, je ne l'ai pas vu passer le temps. J'ai encore l'impression que j'ai 15 ans. J'ai encore tout cet émerveillement-là, ce que j'appelle le feu sacré. Moi, je suis né d'une bien drôle de manière. Je ne devais pas naître. Mm-hmm. Mon père devait demeurer stérile.
Oui.
Il a fait un goitre, il a été opéré. Et par la suite, les médecins l'ont diagnostiqué stérile. Ma mère est allée à la chapelle de l'hôpital. Elle a demandé à Dieu, redonne la virilité à mon homme. Mm-hmm. Puis elle dit, en rentrant, je vais te donner un troisième enfant. Mais cet enfant-là, donne-lui un don. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que la blessure, si vous voulez, de mon père, c'est la glande thyroïde, le goitre.
Oui, donc.
Et donc, quand je suis petite, on m'appelle restant de goitre.
Hein?
Regardez où c'est qui m'a reçu mon talent.
Ben oui.
Et c'est ça qui est la synchronicité, c'est fantastique. Puis, j'ai demandé à ma mère, parce qu'on ne demande pas ça à ses parents. Moi, quand ma mère et mon père, bon, quand ma mère est morte, j'ai reçu une boîte de toutes les lettres d'amour qu'elle écrivait à mon père. Et j'ai pris une prise de conscience énorme, réalisant que mon père puis ma mère, ce sont deux étrangers qui se sont rencontrés un jour, qui se sont aimés. Puis, il a fallu qu'ils fassent l'amour pour que je sois là aujourd'hui. Il fallait qu'il fasse quelque chose qui ressemble à ça.
Toutes des choses qui nous semblent improbables quand on parle de nos parents.
Non, mais c'est ça, on ne veut pas penser à ça, que nos parents font l'amour.
On ne pense pas à ça.
Mais non. Ben, parle-moi pas de ça. La plupart des gens à qui je pose ça. Donc, ma mère, j'ai dit, mais comment tu m'as fait?
Mm-hmm.
Elle dit, on t'a fait dans le portique en revenant de l'hôpital. Donc, quand mon père est revenu de l'hôpital,
OK,
puis il était amoureux, il était fou, là, puis il faisait déjà l'amour dans le taxi. Donc, en rentrant, il a fait l'amour dans le portique. Puis il a dit, t'es-tu dangereuse, Loretta? Et ma mère a dit, oui, ben, il dit, gars-là, le vieux, ton troisième petit. Et tu sais, là, ben, imaginez-vous ce petit sperme-là qui est parti.
Ouais.
Puis là, ben, toute la passion puis l'amour qu'il y avait là-dedans.
Tiens donc,
c'est moi qui l'ai eu.
Tiens donc, des aides fulgurantes.
Non, mais c'est...
Vous avez de qui tenir aussi. Hein?
Non, mais je trouve que c'est important de savoir ces choses-là. Ouais. Moi, j'ai posé beaucoup de questions à mon père et ma mère. Je voulais savoir des choses que la plupart des enfants ne veulent pas savoir de leurs parents. Puis je trouve ça dommage de ne pas connaître ses parents plus que ça. Moi, j'ai posé des questions.
Ouais. Est-ce que vous avez eu des réponses?
J'ai eu parfois. Parfois, j'en ai pas eu. J'en avais pas.
Est-ce que les réponses faisaient mal des fois?
C'était pas le fun, toujours, de les réponses que, parce que ma mère, en quelque part, ma mère, j'étais sa confidente. Ma mère me racontait tout en détail.
Ça peut être une grosse job pour une fille.
Oui, parce que j'étais la maman de ma maman.
OK.
Quelque part. Ça a pas, mais le fait que j'ai joué tous les rôles, je me suis dit, parce que même mon père, parce que ma mère me faisait ses confidences, après ça, c'était papa qui me les faisait.
Mm-hmm.
Donc, je recevais tout ça.
Combien d'enfants chez vous?
On est 5. Je suis la troisième. Je suis le cœur de la famille. D'habitude, ils appellent le mouton noir.
Ça tombe
bien. Mais moi,
bien.
J'appelle ça le cœur de la famille.
J'espérais que vous me répondiez 5, parce que effectivement, le centre de la famille, c'est souvent une drôle de position, dans la mesure où...
Oui,
on va,
parce qu'il y en a deux vieux, puis il y en a deux jeunes.
On va parler des deux plus vieux, des deux
c'est
plus
ça,
jeunes.
C'est ça, absolument.
Puis, oui. Je suis qui, moi, dans le milieu?
Dans le milieu,
là, vous venez de me dire qu'en quelque part,
je suis la troisième.
Vous étiez aussi la confidente de votre mère, un peu comme...
Ah non, j'étais la responsable beaucoup de choses. J'ai aidé énormément.
La grande sœur.
Oh, mais j'ai aidé beaucoup, oui. Ouais. C'est ma famille, oui.
Mm-hmm.
Ouais. Quand je suis parti chez nous, je suis parti avec rien. Ma mère a dit, tu vas faire beaucoup d'argent. Puis l'argent qu'on a dans le compte en ce moment, parce qu'ils avaient commencé à faire de l'argent. Moi, j'avais commencé depuis l'âge de 13 ans.
Ouais.
Mais j'allais toujours porter à mon père et à ma mère un bill de 1000. Dans le temps, il y avait des bills de 1000.
Oui.
Je mettais un bill de 1000 dans la poche à papa, puis je disais, garde maman. Puis je menais un bill de 1000 en dessous du téléphone. Je faisais ça à chaque fois que j'allais chez moi. J'allais souvent à la maison.
Ouais. Vous avez commencé bien jeune. Je lisais des notes biographiques. Parce que quand on, quand quelqu'un fait partie du portrait depuis longtemps, on a l'impression que vous, oui, vous avez un âge fixe.
Ben oui, c'est ça, qu'on vieillit pas ou je sais pas quoi, oui.
Pour moi, c'est ça. Je me rappelle de la Ginette Renault de mes jeunes années. Puis, mm-hmm. Bon, pour moi, vous êtes toujours dans trentaine, en quelque part. Ah, en même temps, vous êtes venu au monde avant ça.
J'aimerais bien ça.
Oui, sauf que la petite Renault du plateau Mont-Royal, à 13 ans, 14 ans, vous commencez à travailler, mm-hmm. à travailler fort.
Mais j'ai travaillé fort jeune, parce que quand j'ai demandé à maman pour chanter, j'ai dit, maman, je veux chanter. Oui. Elle dit, pas avec le 15 piastres à ton père, on va faire une chanteuse avec toi.
Mm-hmm.
Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, maman? Je veux chanter. J'ai dit, moi, je veux pas finir au bain, parce que tout le monde, on finissait en 8e année.
Oui.
On s'en allait, bel téléphone, information. Mm-hmm. J'ai dit, pas pour moi, mais je serais pas capable. Donc, elle me dit, il faut que tu travailles. Donc, à ce moment-là, à partir de 8-9 ans, j'ai 3 runs de journaux. Ça me donne 5 $. 2,5 $ ma leçon de chant, 2,5 $ ma solfège. Des fois, je le mangeais, le 2,5 $. Il fallait bien que je travaille sur mon corps un peu. Donc, je disais à un moment, au professeur, ouais. Je n'ai pas le 2,5 $ puis le solfège. Mm-hmm. En plus, j'haïssais ça. Moi, j'haïssais le solfège, là, les dos. Mais d'été, alors, j'haïssais ça, je voulais juste chanter. Il y a des loups, Muguette, il y a des loups.
Ouais.
Donc, des fois, je le dépensais, je m'achetais des chocolats ou n'importe quoi, mm-hmm. en tout cas. Il me le donnait pareil. Il disait, je vais te le donner pareil, ta leçon de solfège. Ah, oh, je sais ça, pareil.
Il savait que c'était un bon investissement.
Oui, je pense.
D'une certaine manière. Sauf que ça vous amène, à l'âge de 13-14 ans, à travailler dans des clubs. Au Café oui. Provincial, au Café oui. de l'Est.
Casaluma.
C'est les grosses places de l'époque, là.
Ben oui.
Sauf qu'en même temps, c'était le couloir obligatoire.
Ouais, on ne pouvait pas faire autrement,
c'est
non.
C'est ça. Mais il fallait passer à travers le couloir.
Alors moi, jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai fait... Il n'y a rien de plus beau au monde que la province de Québec. Il n'y a rien de plus beau au monde. Je le répète parce que je l'ai fait des centaines de fois en autobus. Au début, c'était des tramways à Montréal. Mm-hmm. Donc, j'ai des souvenirs absolument merveilleux parce que j'étais tellement toute seule tout le temps. Je restais dans les hôtels.
Ouais.
J'avais ma petite chambre avec la goutte du lavabo des fois qui coulait, là, tu sais. Le lit qui n'était pas toujours confortable. Les bureaux qui rouvraient, on ouvrait les tiroirs, puis c'était tout... Donc, j'ai des beaux moments. Quand on était tellement pauvres que ma mère, je partageais souvent ma chambre avec des danseuses qui m'ont appris à me maquiller, à me coiffer. Ils faisaient leur robe dans la loge avec des paillettes, puis tout ça. Donc, ils m'ont enseigné plein de choses. Je les ai adorés. Je les présentais parce que j'étais l'animatrice. « Messieurs, ouvrez bien grand les yeux. Voici bébé Bardot! » Puis là, la fille avec ses affaires sur le sein qui tournait tatang, tatang, d'un bord puis de l'autre. J'ai tout fait ça. On avait les rats qui nous passaient en dessous des jambes dans les cabarets. Il y avait des cabarets. Mm-hmm. Il y avait de la moisissure. Là. C'était vraiment des loges. Là. Ça faisait dur.
Mais fallait aimer ça.
Mais c'était merveilleux. Moi, je le voyais. Je voyais rien de ça.
C'est parce que vous en parlez. Parce que vous êtes une bonne conteuse, il faut dire. Mais vous en parlez, ça a l'air d'un conte de fées. Or, dans la réalité, le château...
C'était pas le château, mais... On avait combien de concerts? Pas de concerts, mais... Quand on regarde ça, on avait 2 shows par soir. Le vendredi, on avait 3. Le samedi, on avait 3 aussi, l'après-midi puis le soir. Le dimanche, c'est la même chose. Donc, on avait comme 15, 17 shows par semaine. Mes premiers shows, ce que j'ai gagné un jour, c'est 20 $ pour faire... Attends, c'était 20 $ pour faire 22 shows. C'est quasiment 1 $, c'est quelque chose par show.
C'est formateur, mais en même temps, ça donne aussi une idée de la valeur des choses.
Oh, mais j'ai eu bien du plaisir, comme au Café Provincial, quand il n'y avait ouais. pas de monde le soir, des fois. Mm-hmm. C'était pas des grands soirs. On allumait l'orchestre, il allumait le rond où est-ce qu'il dansait.
Ouais.
Puis il disait, Ginette va nous en chanter une coupe. Puis là, il m'accompagnait, il changeait le rythme, il changeait les tonalités. Je pouvais chanter à un mur, le mur de Béco,
ouais.
en cha-cha, en meringue, en slow, en swing, de changer de clé. Il y a toujours un côté du mur à l'ombre, mais jamais! On changeait de tonalité, de rythme. Et comme ça, ils ont travaillé très fort sur ma façon d'étudier les choses.
Et c'est probablement ce qui a développé la capacité de musicienne-chanteuse chez vous.
De toutes sortes d'affaires comme ça. Hein,
parce qu'il y a
pas,
des interprètes qui ne sont que des interprètes.
Non, hein, y en a qui chantent. C'est des grands chanteurs.
Mais d'autres aussi qui oui, deviennent oui. des musiciennes, puis tout. Puis vous, en jouant avec des musiciens de jazz comme ça, en vous demandant d'improviser puis de réagir.
Ah non, c'était...
À la virgule.
Il fallait que j'apprenne ça vite. Il fallait que je sois vite and sharp.
fallait être vite and sharp, hein?
C'est ouais. Ça, vite and sharp.
J'en doute pas une seconde. On va aller faire un petit tour du côté de la pause. Puis au retour de la pause, si vous permettez, Ginette Renault, on va continuer cet entretien vraiment intéressant.
D'accord.
Un gros merci d'être là. C'est Ginette Renault. On se retrouve dans quelques instants.